Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Trapanel. Ce soir, c'est le 13e volet de notre série Premier Mouvement. Continuons de dérouler le fil et d'explorer cette vaste thématique de l'apprentissage de la musique. Un certain nombre de sujets découlent de ce thème, beaucoup ont été abordés déjà. Alors, au programme d'aujourd'hui, des paroles d'enseignants, encore une fois, mais aussi des considérations générationnelles qui vont intervenir dans cette histoire, puisqu'on n'aborde pas la musique de la même manière en 2026 qu'en 1996 ou en 1976, hein, qu'il s'agisse d'apprendre ou de commencer à produire des choses. Alors, les amateurs de grand écart temporel et stylistique seront comblés, puisqu'il sera question aussi bien d'hyperpop que de Jefferson Airplane. Mais n'en disons pas trop et laissons à Cassidy Sacré, qui intervient pour la première fois dans l'émission, le soin d'ouvrir cet épisode. C'est sur Trapanel et c'est tout de suite.
L'émission Trapanel commence.
Quand j'étais jeune, moi c'était un refuge, plutôt le piano, plus qu'autre chose. Même si je comprenais pas comment apprendre, comment lire la musique et tous les trucs qu'on essayait de m'apprendre, ça passait d'une oreille et ça sortait de l'autre.
Auteur, compositeur, interprète belgo-américain établi à Montreuil, Cassidy Sacré ne se situe pas toujours là où on l'attend. Puisqu'après avoir sorti avec son groupe un premier EP gorgé de soul, on le retrouve initiateur d'un projet hybride Cyclone l'a passé, quelque part entre théâtre, marionnette, cirque et musique. La spontanéité et la liberté de Cassidy n'a pas forcément trouvé ses marques dans l'enseignement musical traditionnel et ses contraintes.
Moi, je suis passé à la guitare vers... En fait, ça, c'est aussi ma mère, ouais. Vu qu'elle voyait que je m'intéressais vachement au piano et tout ça, et bon, elle m'avait dit, ouais, ça t'intéresse d'apprendre la guitare? Et j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, tu vois. C'était à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré aussi un prof de musique qui finalement pouvait m'apprendre un peu de musique, quoi. Mmh. Beaucoup moins psychorigide. De un, c'était pas du tout le système classique comme on le comprend. C'est un super pédagogue, quoi. Je saurais même pas comment expliquer, mais en fait, je pense qu'il a passé une bonne partie de sa vie. Non seulement c'était une bête de musicien, qui a fait des bêtes d'école, mais en plus de ça, il avait beaucoup d'expérience, je pense, bien avant que j'existe, moi, de pédagogie et d'apprentissage avec les enfants. En fait, il s'entendait bien avec les gens, et en plus, quand il parlait, il parlait pas comme un enfant, il parlait comme une personne, tu vois, genre... Et donc, du coup, moi, ça me chantait bien, parce qu'en fait, j'avais un rapport quand même particulier envers les adultes, vu que j'avais pas beaucoup de copains enfants, on va dire. Il a trouvé un enfant qui, en fait, avait pas beaucoup de vie sociale, qui était très renfermé, mais je pense qu'il a aussi vu un ego qui existait quand même là-dedans, tu vois. Genre, je pense que ça devait être assez surprenant de trouver un ego aussi surdimensionné que le lien en termes de musique, quoi, tu vois, genre. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, je pense que j'avais construit beaucoup de mon identité autour du fait que j'allais faire des cours de musique, ils essayaient de m'apprendre à lire la musique, j'arrivais pas à lire la musique, mais je revenais la semaine d'après avec ce qu'ils m'avaient appris la semaine d'avant. Donc un travail de mémoire quand même assez bien, ou bien juste parce que j'étais bon à la répétition, à la maison ou quoi, tu vois. Mais j'avais construit un ego un tout petit peu autour de ça, quoi. Même si il en faut peu, quoi. Mais donc lui, il écoutait vachement, et super pédagogue. À travers toute mon éducation avec lui, c'est-à-dire, je sais pas, 5-6 ans en cours avec lui, il a toujours essayé de m'apprendre à lire la musique. Donc franchement, hyper admiratif d'avoir essayé. et puis il était toujours ouvert à n'importe quel truc que je voulais essayer. Il avait des instruments à disposition chez lui. Donc du coup, en fait, ça convenait bien pour quelqu'un qui était intéressé à apprendre plusieurs instruments comme moi, en fait.
Alors, je ne sais pas si c'est pour donner un conseil, mais effectivement, ce truc de transmettre la musique à des élèves qui sont déjà, par ailleurs, on va dire, bons musiciens, dans le sens où ils savent jouer des morceaux, ils aiment la musique, mais ils ont tout fait en autodidacte ou en imitant ou en recopiant.
Loïc Murat.
Un truc qui, je me rends compte, qui marche énormément bien pour faire vraiment passer un cap sur pas mal de choses, c'est la chance qu'on a dans l'atelier de musique, c'est qu'on a réussi au cours des ans à avoir du matos. Il y a 18-19 élèves et ils jouent chacun des petits morceaux. Ils vont passer à la batterie, ils vont passer à la basse, s'ils veulent, au piano et à la guitare. Et en fait, de passer d'un instrument à l'autre, ça oblige à se forcer à plus réfléchir uniquement à « je recopie ce que j'ai vu sur la vidéo ».
Trapanel.
On les connaît tous, ces musiciens qui sont des tueurs et qui arrivent et qui font des trucs et t'essaies de leur expliquer. Tu dis « si seulement ils avaient appris ce que c'était qu'un accord, etc. » Et puis en fait, au bout de 20 minutes à l'oreille, ils ont tout chopé, ils te font même les enrichissements. Et j'ai quand même, j'avoue, un peu en tant que dans ma pratique de... d'atelier musique et d'encadrement les élèves, j'ai quand même envie de leur dire, j'ai un peu l'impression qu'ils arriveront à un plafond où ça leur fermera quelques portes, même pas en termes professionnels et tout, hein, mais c'est de se dire que bah, en fait, c'est quand même assez chiant de pas pouvoir se dire, là on fait un sol ou on rajoute tel truc, etc. Ou par exemple, ils font les choses à l'oreille, c'est pas exactement la même chose, parce qu'en fait, en plus souvent c'est des guitaristes, et à la guitare il y a des trucs, du coup on se retrouve avec ces enregistrements qui sont pas là, ça sonne pas pareil, et du coup, bah, et du coup c'est compliqué de parler, de communiquer, de faire quelque chose, voilà quoi. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte par rapport à notre génération, il y a aussi YouTube, qui consiste à même pas suivre des tablatures, mais reproduire à l'identique ce qui se passe au niveau des mains et des doigts, ils savent, par contre c'est vrai que c'est des... J'ai des élèves qui sont des tueurs pour très très bien jouer, ils ont le feeling, tout ça et tout, mais ils se rendent pas forcément compte que, toi, une basse, ça joue les fondamentales, et puis que ce qui revient très souvent, c'est la quinte, et puis que là, il y a une tierce majeure ou mineure, et des fois, je me dis, c'est trop dommage qu'ils... Enfin, certains le font, hein, mais c'est trop dommage que certains fassent pas l'effort de se dire, bah, en fait, toi, une grille d'accords, bah, en fait, il y a trois notes, quoi. Il y a une fondamentale, une tierce et une quinte, et que t'es pas obligé de faire exactement ce que le gars il a fait sur le morceau. Tu peux aussi créer ta propre ligne de basse en reprenant un peu le morceau. Et ça, c'est aussi une liberté de se rendre compte de tout ça, quoi.
Tu dis Trapanel ?
Trapanel.
Ce qui est intéressant, ouais, c'est le pont.
Benoît Lombard.
C'est le moment où la musique se démocratise, tu sais. Ça, c'est intéressant. Je pense que le grunge, il a apporté ça. Et là, justement, quand je disais ça, je réfléchissais s'il y avait eu une nouvelle vague en fait par rapport à ça, tu vois, sur après les années 90. Mais je pense que en fait finalement cette nouvelle vague de démocratisation de la musique, elle s'est pas faite justement sur les accords, sur le fait de faire des choses très simples, mais plutôt par rapport à l'accès, en fait, à l'accès au studio, quoi, que tout le monde pouvait avoir.
Quand on parle de musique faite spontanément, faite de manière brute, faite à l'arrache, des fois on se rend compte qu'on a pas, ouais, on parle pas trop la même langue avec deux personnes.
Boris et Harmonie, Chien de faïence.
Qui, des fois, pour eux, ça va être juste, amener un petit élément brutiste dans une chanson, ou chanter un peu plus faux, ou un peu plus beuglé, quoi, alors que... Pour nous, des fois, c'est un truc. Enfin, c'est vraiment, voilà, un truc enregistré n'importe comment, entre guillemets. Genre, on entend la voix en fond, trop la guitare, enfin, il n'y a pas de notion de mix et tout.
Oui.
Mais c'est vrai que peut-être que la perception du tweet a changé, parce que maintenant, Lofi, ça peut être le qualificatif d'un
style,
d'un plugin, pour avoir un son.
Et j'ai même vu, depuis 2-3 ans, c'est un genre musical, la Lofi. Qui est, je crois que c'est un peu apparu dans... C'était beaucoup des playlists, quoi, sur YouTube, des trucs comme ça. Et c'était, en gros, de ce que je comprends, de la musique un peu de la musique d'ambiance, de la musique d'ascenseur, entre guillemets.
Ah ouais.
Faite, mais avec un côté un peu, en gros, pour moi, quand j'écoute ça, c'est genre de la musique d'ambiance, de la musique d'ascenseur, sur lequel dessus tu mets un filtre vinyle qui craque.
Oui. Mais c'est vrai que des fois, quand tu pars avec des jeunes, qui disent Lofi, ils pensent à des
Ils pensent à ça. Ils pensent aux playlists YouTube de
trucs ambiants.
De musique. Tu sais, c'est de la musique, je pense, que tu mets pour travailler un peu, des trucs comme ça.
Donc tu vois, rien ça, c'est à voir avec notre définition.
Rien à voir avec notre définition à nous, qui va être un plus un truc de Daniel Johnston, de trucs enregistrés
Mais même dans les trucs à nous.
Mais même dans les trucs à nous, des fois.
Quand les gens maintenant disent lofi, son sens premier a été un peu déformé, quoi.
Ouais, quand tu vois le tag des fois sur Bandcamp, par exemple, sur des albums, tout ça, et que j'écoute après, je me dis ouais, c'est quand même sacrément produit pour un truc lofi.
C'est quand même, tu vois, Daniel Johnson, par exemple, oui. C'est juste branché
un
truc.
C'est cassette, c'est ça.
Comme Jean-Luc Lettenier, quoi. C'est juste appuyer sur un bouton, même sur un répondeur ou je sais pas quoi, et enregistrer, tu vois.
Et c'est vrai que par exemple, et par rapport aux années, enfin nous on aime beaucoup la musique des années 90. Et je sais pas, enfin plein de groupes des années 90. En gros, des Breeders à Calvin Johnston, Beat Happening, tout ça, quoi. Et c'est vrai que cette esthétique-là est beaucoup, beaucoup revenue là, depuis quelques années, dans les jeunes groupes et tout, et je trouve ça trop cool et tout. Mais des fois aussi, pareil, je me dis, on n'a pas compris la même chose de ce genre de musical, ouais. Quoi. Qui pour moi était un truc de justement qui disait, enfin, la substance de ça, c'était de dire un peu fais ce que tu veux, comme tu veux, voilà, dans cette spontanéité-là, et eux, ça passait par voilà, faire du bruit avec des guitares, tout ça. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on en a gardé que des fois que la coquille un peu, quoi. Alors du coup, on arrive, on a des morceaux comme ça qui sonnent spontanément très Sonic Youth, très Nirvana, très Pixies, très Breeders, machin. Mais qui du coup, enfin moi ça m'intéresse moins parce que c'est pas, justement c'est un peu, des fois ça peut être un peu plus creux, quoi.
Oui.
Parce que comme je disais, ça revient à ce qu'on disait, moi c'est, je suis un peu moins sensible au son et à l'esthétique sonore.
Mais plus à l'intention.
Plus à l'intention, voilà. Et des fois justement, moi, pour moi cette musique là, c'est pas une musique qui doit créer des chapelles et des trucs, quoi. C'était justement, c'est tout le contraire même. Faut voir, quand t'écoutes Beat Happening, quoi, c'est pas. Enfin, pourquoi essayer de refaire une. C'est pas le but de refaire une guitare qui sonne comme Beat Happening ou quoi. C'était eux, ils faisaient ça à l'arrache, comme ils pouvaient, pareil, quoi. Le but, c'est l'intention, justement. C'est. Bah, pareil, voilà, ils n'avaient pas de moyens et tout, machin. Ils n'avaient pas de bons instruments. Ils n'avaient pas spécialement envie de bien chanter ou quoi. Et voilà, ils faisaient des morceaux. Et c'est ça qui était cool, quoi. Et du coup, tu peux le transcrire d'une infinie possibilité, enfin, de manières différentes et de. Et c'est ça que je trouve intéressant, je crois que je trouve inspirant dans ces trucs.
Trapanel.
Les trucs DIY, lofi,
oui.
Années 90, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse vouloir
refaire exactement.
Mais bon, ça va vraiment, on parle de la musique, mais maintenant ça va jusque dans les clips, je veux dire, tu vois, maintenant il y a le truc de base dans un clip, c'est de mettre un filtre VHS, quoi. Oui. Un peu bien. Oui. Alors que ça a probablement été filmé avec un iPhone à 1500 balles.
Ouais. C'est un peu imiter quelque chose qui, au départ, était là, quand même un peu par défaut.
Ouais.
Bah ouais.
Bah oui, c'est ça, c'est prendre l'aspect extérieur et pas le fond de la philosophie du truc qui était fais ce que tu veux avec ce que tu peux, avec ce que t'as et exprime-toi. Enfin, tu vois, c'est reprendre leur esthétique, mais un peu vider de son sens.
Ouais.
Extrait de l'autobiographie de Thurston Moore, Sonic Life. À l'orée des années 70, mon frère Gene a fait l'acquisition d'une guitare électrique, une Fender Stratocaster, dont il s'est mis à jouer de manière obsessionnelle. Il avait 18 ans quand j'en avais 13. J'ai réussi à glaner un peu de familiarité avec le manche juste en l'observant, en le regardant jouer jour et nuit, accords, doigté, technique de strumming. Gene et ses amis hippies s'asseyaient souvent autour de notre maison, sans arrêt en train de jouer des riffs sur leur gratte, d'écouter des disques, de fumer des clopes, de rire, de parler de groupes et de concerts. Ils avaient tous un groupe fétiche dont ils prenaient soin de collectionner chaque disque pour en devenir le spécialiste attitré. L'un d'entre eux était à fond dans le moody blues, un autre prêtait allégeance à Emerson, Lake & Palmer, ou Santana, ou The Movers of Invention. Le choix de Gene était Jefferson Airplane, l'acid rock de San Francisco, avec des solos de guitare wah-wah, des paroles allumées, des pochettes d'albums psychédéliques, toutes ces choses assez extraterrestres pour notre monde rural du Connecticut. Initié par les Kingsmen, la musique expansive du Jefferson Airplane, jaillissant de la stéréo de Gene, ouvrit mes yeux une nouvelle fois sur le rock'n'roll, ce monde mystérieux qui s'étendait bien au-delà de la fenêtre de ma chambre, comme un fragment d'une culture musicale qui avait à peine plus d'une dizaine d'années. Quand Jean partait travailler pour l'un de ses jobs d'hiver, emballer les courses, tondre les pelouses, je me faufilais dans sa chambre et sortais sa Stratocaster bien-aimée de son étui de cuir dur doublé de feutrine. J'en jouais jusqu'à ce qu'invariablement je ne casse une corde. Soit Jean n'avait pas de cordes supplémentaires, soit je n'avais pas compris comment les changer. Dans tous les cas, je rangeais la guitare telle qu'elle, honteusement. Il rentrait à la maison plus tard et se précipitait dans sa chambre pour découvrir que la guitare qu'il avait laissée en parfaite condition avait désormais une corde cassée. Il connaissait le coupable. Légitimement furieux, il m'avertissait de ne plus jamais y toucher. Après quelques incidents similaires, il trouva une solution. L'étui avait une petite serrure à clé. Il décida d'enfermer la guitare en emportant la petite clé avec lui. Mais je compris rapidement comment forcer le verrou avec un tournevis. Et bien sûr, alors que je pratiquais ma technique de strumming rudimentaire, une corde cassait une fois encore, comme s'il fallait à tout prix que le petit drame se répète. Jean renforça son arsenal de sécurité en roulant une chaîne industrielle autour de l'étui, fermée avec un redoutable cadenas. C'était intimidant au départ, puis j'ai réalisé qu'avec une solide pince et 20 minutes méthodiques, je pouvais séparer un maillon de la chaîne puis le remettre à sa place. La guitare était à nouveau libérée. Je pouvais donc, à coup sûr, casser une autre corde avant de remettre la guitare dans son étui et passer 20 autres minutes à replacer le robuste maillon. Jean, en rentrant à la maison, pouvait monter dans sa chambre, déverrouiller l'étui et réaliser qu'il n'y avait rien à faire. Que pouvait-il faire ? Son petit frère était aussi envoûté par la guitare qu'on pouvait l'être. Il a fini par me mettre devant les yeux une Fender Stratocaster Sunburst, incroyablement belle, qui serait désormais la mienne. Il avait pu l'acquérir pour presque rien, sa provenance était mystérieuse, elle était probablement, comme on dit, tombée du camion. Je n'étais pas trop embarrassé avec ses origines malgré tout, j'étais submergé d'excitation et de gratitude. Je venais d'avoir 16 ans et j'avais désormais ma première machine à bruit. Mes jours de guitare illicite étant maintenant derrière moi, j'allais brancher ma Strat flambant neuve dans l'ampli deux cordes Jean qu'il gardait dans sa chambre. Puisqu'il n'y avait personne dans la maison susceptible d'être dérangé, mon père était parti travailler au collège, Jean et Sue étaient dehors avec leurs potes, ma mère était partie faire du shopping quelque part, je me défoulais sur ma guitare, créant des sons hurlants, couinants, stridents. Il y a eu un après-midi où, en pleine production de bruitisme, à fort volume, je distinguais, difficilement, qu'on martelait à notre porte d'entrée. Je dévalais les escaliers pour me retrouver face à une femme, tremblante, pétrifiée, qui vivait en face. Les larmes coulaient de ses yeux. « S'il vous plaît, pouvez-vous laisser la musique ?» bégaya-t-elle. « Je suis en pleine crise de nerfs. » Jean s'engagea dans l'aviation, où il travailla à l'entretien des avions de chasse. À mon grand désespoir, il emporta son ampli avec lui pour s'installer dans le New Jersey. J'en fus provisoirement démuni, mais j'ai rapidement trouvé une solution. Je pouvais brancher une extrémité du câble de la guitare à l'arrière du récepteur radio bon marché de mon père, qui était posé sur le frigo de notre petite cuisine. Mon câblage était précaire, mais il créait juste assez de connexion pour envoyer mon signal de guitare vers les petits haut-parleurs pourris. Le son était étonnant, fou et sauvage avec une distorsion bizarre, un truc du genre du premier album des Stooges que j'avais trouvé dans le bac à solde du disquaire quelques années plus tôt, intrigué par ces quatre gars parfaitement défoncés qui me toisaient sur la pochette.
Trapanel!
Moi, j'ai écouté pas mal d'interviews de mecs de 18-20 ans. En fait, la plupart, ils disent que ce qui les a amenés à la musique, c'est les jeux vidéo. Des jeux comme GTA, etc. Où je sais pas, tu pouvais avoir un morceau des Daft Punk ou des Chemical, tu vois. Un truc comme ça. Des mecs comme Flavien Berger, tu vois, ils parlent de ça. Et puis, du coup, en suivant GarageBand, quoi. Pas mal de gamins qui se sont mis à commencer à faire de la zik avec GarageBand, quoi. Mais du coup, pas forcément en passant par un instrument, quoi.
Trapanel.
Après, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence la musique et qui veut enregistrer avec, je sais pas, les moyens les plus, oui. Il va aller vers le numérique.
Oui, ça, oui, ça, oui.
Et donc, il va tout de suite avoir la possibilité d'avoir un truc propre.
Mm. Bah ouais, ouais.
Enfin, avoir un truc.
Oui, c'est plus, clair.
Enfin.
Oui, non, oui, oui, c'est vrai.
Mais le phénomène un peu qu'il y a eu depuis 5-10 ans, là, de l'hyperpop, par exemple. C'est... Mm. Ça, pareil, tu vois, c'est de la pure musique d'ordinateur, quoi. Et ça a été, ça a quand même été très créatif et ça a inventé un genre musical, c'est, enfin, qui avait été jamais trop vu jusqu'ici, quoi. Mais tu vois, c'est, je pense, un espèce de mix de bedroom pop, enfin, de gens qui font ça un peu chez eux.
Si tu fais vraiment ça tout seul avec ton.
Ouais, en gros, c'est faire du. Moi, je vois ça comme faire du Britney dans sa chambre, quoi.
C'est ça.
En gros, quoi.
Tu vas faire du gros son, un truc qui peut être joué dans un scène, mais sur ordi dans ta chambre.
Dans ta chambre, et tu fais des lives, tu vas arriver avec ton ordi.
Avec ton ordi.
Tu vas balancer. Tout va être lié là-dessus, et tu vas faire un espèce de concert Stade de France à la Pointe Lafayette, quoi, tu vois.
Mais c'est assez, on en a vu en concert,
c'est très, c'est
du
trop
coup là, tu vois, c'est
très,
vraiment nouveau et avec les moyens actuels, tu vois, c'est vraiment faire un, donc c'est un peu plus l'esprit
faire
ce que tu peux avec ce que t'as aujourd'hui, ce qui est assez cool.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais un peu pense là, du coup, ça rejoint peut-être aussi le rap, tout ça. Maintenant, les beatmakers et tout, je pense beaucoup de mecs maintenant qui sont méga connus et tout, tu peux faire ça sans avoir aucune notion musicale ou quoi que ce soit, juste. Tu te butes à YouTube au tuto pour en savoir comment faire un type beat à la PNL ou à la machin, et t'arrives, et il y a des mecs qui sont et c'est pour ça que maintenant, même je crois que les grands rappeurs, enfin même les rappeurs les plus connus, des fois ils ont des beatmakers qui ont 15 ans des gamins méga chauds là-dessus qui ont appris tout seul avec les logiciels et tout, quoi. Enfin, c'est cool de se réapprendre,
enfin, je trouve ça
dans ce sens-là. En vrai, je crois que c'est un peu un truc de fou. Moi, j'ai un peu moins en ce moment, mais quand j'ai écouté pas mal de rap là, il y a quelques années et tout, quand ça a commencé à devenir le genre le plus populaire comme c'est aujourd'hui, là, c'est vrai que tu te regardais après, en fait, et après tu regardais des interviews et tout ça, et tu voyais, ouais, les beatmakers, machin, tout ça, c'était souvent des gamins et tout, c'était impressionnant, quoi, alors qui étaient là dans leur chambre, et des fois même pas de clavier MIDI ou quoi que ce soit, à la souris, et après ils te montrent, il y a aussi des beatmakers qui connaissent très bien le solfège aussi, qui connaissent très bien tout la tradition musicale, il y a vraiment de tout, quoi. Mais aussi beaucoup de mecs qui connaissent rien à tout ça et qui sont devant, j'ai l'impression qu'ils sont devant un espèce de, je sais pas, des immenses tableurs Excel qu'ils organisent et tout d'une certaine manière, ou d'un truc comme ça, quoi. Et ils visualisent, c'est des petites cases et tout, et là ça se met ça, et là bon bah faut que ça soit de la trappe, donc là tu mets la basse, faut que ça soit sur ces temps là, tu vois. Il parle quand même de temps, de machin, de trucs, mais sans, je pense, au fond exactement savoir ce que c'est, quoi, mais tu vois, mais parce que ça, c'est juste comme ça qu'ils ont appris, et ça, enfin, moi ça me fascine, tu
vois. Oui, c'est
je trouve ça trop bien et assez inspirant, ouais. C'est assez cool, hein, comme approche.
Ouais.
C'est sur ces mots de Boris et Harmony de Chien de Faïence que cette émission se termine. Chien de Faïence qui vient d'ailleurs de sortir un EP en février 2026, tout s'écoulé, toujours plus proche de la lofi que de l'hyperpop. Un grand merci à eux, ainsi qu'à Cassidy Sacré, Benoît Lambin et Loïc Murat pour leur contribution. Et à bientôt sur Trapanel.
À bientôt sur Trapanel. Au revoir.
À bientôt
sur Trapanel.
J'étais prête à m'amuser, à partager toutes vos joies. Oui, j'étais bien auprès de vous, et voilà qu'il faut que je parte. J'ai l'impression d'aller dans un autre monde. C'est triste la vie quand on doit quitter ses bons amis. Oui, c'est triste de quitter ses amis. J'étais prête à pleurer, à partager vos ennuis. Oui, j'étais bien auprès de vous, et voilà qu'il faut que je parte. J'ai l'impression d'aller sur une autre planète. C'est triste la vie quand on doit quitter ses bons amis. Oui, c'est triste de quitter ses amis. J'étais prête à m'amuser, à vous aimer, à vous aider. Oui, j'étais bien auprès de vous, et voilà qu'il faut que je parte. J'ai l'impression d'aller dans un autre univers. C'est triste la vie quand on doit quitter ses bons amis. Oui, c'est triste de quitter ses amis. Mais jamais je ne vous oublierai, toujours quelques phrases, quelques mots pour vous avouer mon amitié. C'est triste la vie quand on doit quitter ses bons amis. Oui, c'est triste de quitter ses amis.